Nous sommes toujours sur Micro Rebelle Hebdo. Le reportage qui va suivre aborde une thématique que nous aimons bien à Micro Rebelle, l'autogestion.
Bonjour à tous et merci d'écouter Micro Rebelle. Alors pour cette émission, nous nous sommes déplacés dans les Sept Vallées à Russeauville au sein de l'association À Petits Pas qui accueillait le réseau Repas. Alors le réseau Repas, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau informel hein, d'entreprises, d'associations. Repas, ça veut dire réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Donc ce réseau regroupe une trentaine d'entreprises, hein, d'associations dans toute la France. Et celles-ci mettent en œuvre des pratiques économiques qui, en quelque sorte, tiennent à distance le profit, la course à la consommation, le tout à l'économie. Hein, c'est un réseau qui inscrit ses pratiques dans le concret de pratiques libres, solidaires et qui se reconnaissent dans une culture commune, tout en précisant que les organisations de ce réseau ont des métiers extrêmement différents. On peut typiquement estimer que beaucoup d'organisations du réseau Repas s'efforcent de redonner vie au joli nom d'autogestion. Donc dans notre région Nord-Pas-de-Calais, lors de ce week-end du réseau Repas, il y avait, concernant le Nord-Pas-de-Calais, donc l'association À Petits Pas qui accueillait l'ensemble du week-end. Il y avait également la coopérative, la SIC CLIS 21, et il y avait l'association lilloise Les Filles à Retordre. Au-delà de ce qu'est le réseau Repas, autrement dit un rassemblement d'une trentaine d'organisations, le réseau Repas c'est également le compagnonnage. Alors, le compagnonnage c'est ni plus ni moins un tour de France dans les entreprises du réseau Repas, un tour de France d'une quinzaine de jeunes qui sont répartis en petits groupes et qui souhaitent non pas apprendre un métier, mais visiter des entreprises dans lesquelles il y a un certain nombre de valeurs. Et donc, en faisant ce tour de France, c'est ni plus ni moins transmettre des valeurs qui ont cours au sein de certains projets coopératifs. Donc, ce tour de France, à ce compagnonnage, il a lieu une fois par an, en général de février à juin. Et puis, les temps de travail alternent immersion individuelle, groupe d'action, regroupement. Voilà, c'est ni plus ni moins une façon d'appréhender pour un groupe de jeunes d'appréhender ce que pourrait être concrètement un projet dans lequel ces jeunes pourraient s'investir. Donc on aura l'occasion justement de reparler de ce compagnonnage lors de l'interview qui va suivre. Donc le réseau Repas, c'est donc des organisations qui se retrouvent, un réseau d'organisations. C'est le compagnonnage. Et enfin, le réseau Repas, c'est également des éditions, autrement dit les éditions Repas. Donc ce sont des éditions qui publient des livres, des témoignages d'expériences alternatives, qui s'efforce de montrer qu'il y a d'autres possibilités de mettre en œuvre d'une manière concrète, d'une manière pratique, une certaine forme d'économie. Puis ces éditions, donc finalement, souhaitent, comme le réseau, encourager celles et ceux qui sont insatisfaits du monde dans lequel ils vivent à faire un pas vers d'autres possibles. Voilà, place maintenant à notre interview. Nous allons interviewer Alain, on va vous le présenter dans le cadre de l'interview. C'est quelqu'un qui est investi dans le réseau Repas et puis dans une de ses organisations, une coopérative. Alors peut-être une petite précision, cette interview a été faite durant le week-end. Elle a été faite dans la salle à manger dans laquelle tout le monde se retrouvait. Donc il est possible, ça pourrait expliquer certains petits bruits de fond très, très légers que vous pourriez entendre. A tout à l'heure. Donc je suis aux rencontres du réseau Repas, à Petits Pas, à Russeauville, dans le territoire des Sept Vallées. Et je suis avec Alain. À ces rencontres du réseau Repas, il y a différentes organisations qui sont présentes, différentes coopératives, associations, enfin différentes Et donc Alain, lui, fait partie d'une organisation qui s'appelle La Navette. Alors Alain, je vais commencer par te laisser te présenter et puis, d'une manière générale, présenter La Navette.
Bonjour, donc je m'appelle Alain Détol. Je suis membre d'une coopérative qui s'appelle Scop La Navette, qui est installée sur le plateau de Mille Vaches à Faux-la-Montagne. Nous y sommes installés depuis 2007. C'est une activité qui avant se déroulait à Paris et à Montreuil et qui consiste en une activité de rédacteur de textes pour des revues, des magazines, des sites internet. Rédaction de textes plutôt techniques, rédaction de textes qui ont à voir avec la législation, la réglementation, avec comme optique de pouvoir expliquer à des gens qui ne sont pas des spécialistes les évolutions en matière législative réglementaire et donc les aider en fait dans les projets qu'ils peuvent porter aussi bien en matière associative que coopérative ou mutualiste, ce qu'on appelle traditionnellement l'économie sociale. Nous sommes donc des rédacteurs, nous sommes une équipe, enfin nous étions, j'expliquerai pourquoi je dis nous étions, une équipe de 7 personnes sur Faux-la-Montagne. Et nous avons différents supports, une revue qui s'appelle Association Mode d'Emploi qui est une revue nationale. Nous intervenons sur différents sites, le site de la MAIF, le site de la Caisse d'Épargne, le site de la Banque Postale et après sur différents partenaires sur des interventions qui sont plus ponctuelles en fait en fonction des demandes qu'on peut avoir sur des sujets particuliers.
Merci Alain. Donc, tu as évoqué des grands noms. Hein. Tu as parlé de la MAIF, par exemple. Je voudrais t'interroger sur des plus petits noms maintenant. Hein. Donc, notre radio, elle est écoutée par des organisations hein, diverses et variées, de l'ESS notamment. Alors, des ressourceries, des magasins équitables. Typiquement, est-ce que tu as des exemples de coopération avec de telles organisations et La Navette ? Autrement dit, bon, je tiens un magasin équitable ou alors j'ai un atelier de réparation de vélos ou un garage associatif. Est-ce que La Navette travaille avec des organisations comme celle-là ? Enfin, qu'est-ce que fait La Navette exactement avec ce type d'organisation ?
Non, alors là, on est dans un autre mode de coopération. La Navette, quand elle travaille avec la MAIF, c'est pour une prestation de service qui est servie à la MAIF, une prestation de rédaction par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire amener une vulgarisation d'un certain nombre de données au public le plus large. Après, on est installé sur un territoire, celui de Faux-la-Montagne. Il se trouve qu'en plus, c'est un territoire qui est très dynamique, mais quand on regarde d'un peu près, la plupart des territoires sont très dynamiques en fait. Bref, pour ce qui concerne Faux-la-Montagne, on est donc sur ce qu'on appelle le plateau de Mille Vaches et autour de nous et à côté dans d'autres villages ou dans d'autres villes, on a un certain nombre d'initiatives citoyennes qui sont prises, donc qui peuvent être aussi bien des recycleries, des AMAP et différents. Il y a une télé, hein, il y a une télé, Télé Mille Vaches, qui est la plus vieille télé associative de France. On a une radio, Radio Vassivière, qui est une radio associative. Et tout ce petit monde-là coopère, collabore, travaille ensemble, mène ensemble un certain nombre de projets, mutualise des moyens, tout ça. Et alors donc explicitement et directement, La Navette participe à cette dynamique, collabore, coopère, éventuellement va financer un certain nombre de choses. Pour autant, on n'a jamais de prestations directes. De rédactionnel direct qui est fait par La Navette pour ces différents organismes, ces différentes structures. Ne serait-ce que parce qu'à ce moment-là, on serait dans des rapports marchands qui seraient de toute façon pas au niveau et pas dans les moyens des structures concernées.
Donc on peut dire que les clients ou les usagers, je ne sais pas comment vous exprimez au sein de la navette, vos clients, vos usagers, sont quand même des grosses organisations de l'économie sociale, de manière générale. C'est plutôt le profil.
C'est plutôt en effet des grosses organisations qui sont nos clients. Quand je regarde la revue Association Mode d'Emploi, néanmoins elle s'adresse à des responsables associatifs et elle est achetée par des responsables de petites associations et de petites structures. Donc on a bien les deux plans. Et puis quand on met en place ou on participe ou on anime des formations ou des colloques ou des choses comme ça, puisque c'est aussi une partie de notre activité, on va se retrouver avec en face de nous ou à côté de nous dans les salles des gens qui viennent de tous horizons. Donc c'est vrai que la majeure partie de notre subsistance, on la tire de nos rapports avec des grosses organisations de l'économie sociale. Pour autant, notre activité peut largement être en contact avec l'ensemble de l'économie sociale et au-delà, qu'elle soit grosse ou petite.
Lors de ces rencontres du réseau Repas, on parle beaucoup de la vie interne, on parle beaucoup d'autogestion. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur comment tout ça s'est vécu, la vie coopérative, hein? Tu as évoqué la SCOP, la navette, la vie coopérative, comment elle se passe, quelles sont les réussites, les difficultés aussi?
Oui, alors on est dans les rencontres du réseau Repas, réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires. C'est un réseau qui s'est formé il y a 20 ans, un petit peu en réaction de ce qui existait à l'époque de théorisation de l'autogestion, en disant nous on veut parler de la manière dont on vit concrètement les choses au sein de structures qui sont en prise avec une réalité, en général une réalité économique. Et c'est vrai que ce qui nous rassemble ou ce qui nous rapproche, c'est ce que nous on mène au sein de la navette, c'est une manière particulière d'envisager les rapports de production au sein d'une unité comme quelle qu'elle soit. Alors notamment en s'appuyant sur le fait qu'on croit beaucoup que chaque personne dans une entreprise a quelque chose à y apporter à égalité avec les autres et qu'il n'y a pas de valorisation particulière à faire de l'un par rapport à l'autre, que tout le monde a sa place et a la même importance. Donc ça veut dire derrière que tout le monde touche le même salaire, qu'il est très important d'échanger et de prendre en compte tout ce que peut amener chaque individu, qu'il soit jeune, vieux, femme, homme, et qu'il est très important de mixer toutes ces expériences. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, que tout est bon à prendre et qu'on essaye de réfléchir ensemble à tous les aspects d'une activité pour résoudre tous les problèmes auxquels on peut être confronté, même si après dans le quotidien, il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins spécialisés sur une tâche au sein de la structure. L'important est de pouvoir avoir ce mouvement d'échange, de communication et de réflexion commune pour arriver à gérer l'ensemble de l'activité.
Peut-être pour qu'on ait une vision un peu plus concrète de ce que tu viens d'évoquer, est-ce que tu peux nous situer la navette? Vous êtes combien? Combien de salariés? Combien de bénévoles? Enfin, ou même sans les distinguer, c'est l'équipe, c'est combien de personnes? Comment ça se passe? Il y a des réunions d'équipe tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, comment ça se présente dans le concret? Ces prises de décision, la mise en commun de projets, d'envie de faire.
Alors, donc sur les aspects concrets, la navette actuellement, c'est 7 personnes qui sont salariées sur des temps partiels choisis et pas des temps partiels contraints, avec une base de 2000 euros net pour un plein temps, un plein temps étant à 35 heures. Donc les gens qui travaillent 20 heures sont au prorata de ce point de vue-là. Il y a actuellement dans l'équipe salariée 2 garçons et 5 filles. La plupart sont sur des postes donc de 20 heures, 25 heures. Et une des filles, c'est une correctrice qui est là depuis l'origine du projet, et elle est sur 3-4 heures par mois. Là aussi, c'est parce que c'est une personne retraitée qui fait ça en plus, mais qui est dans le projet depuis l'origine. Il y a donc deux personnes, Christian et moi, qui sommes des retraités de garçons, et un troisième garçon qui était aussi dans l'équipe. D'ailleurs, nous sommes les trois qui avons amené la navette à Faux-la-Montagne. Le troisième, lui, est sorti de la navette pour aller consolider un projet qu'il avait à cœur depuis longtemps, qui est une biscuiterie sur laquelle collaborent d'autres personnes et qui a une forme associative et aussi qui relève un petit peu de l'autogestion. Alors comment après on fonctionne au quotidien ? Au quotidien, je ne décrirai pas, mais globalement, toutes les réunions et tout. Il y a un moment fort en fait dans la semaine, qui est soit le lundi, soit le mardi, suivant les choses, où il y a une réunion d'équipe où l'ensemble des personnes qui sont concernées, salariés, là je parle, hein, pendant 2 ou 3 heures, passer en revue l'ensemble des activités qui sont en cours, les questions qui se posent, la répartition du travail qu'il va y avoir à faire et poser un certain nombre d'autres problèmes qui se posent dans la gestion courante de la structure, de manière à pouvoir ensemble les résoudre ou les examiner. Il y a un compte-rendu qui est fait, qui donc en plus est diffusé à l'ensemble des membres, d'ailleurs salariés ou pas salariés. Toutes les personnes étant sociétaires, on est dans une SCOPS, qui est une forme particulière d'économie sociale, où en fait on ne peut avoir que des personnes sociétaires au sein de la... Bon, et il se trouve que dans ce système, les retraités peuvent continuer à être sociétaires. C'est pour ça qu'il y a des retraités bénévoles. Sinon, on ne peut pas y avoir de bénévoles au sein d'une SCOP. Là, il faudrait être dans une SIC ou dans une association. Donc, l'intérêt de notre système de compte-rendu, c'est que c'est un compte-rendu glissant, c'est-à-dire qu'on reprend d'une semaine à l'autre le même document qui a été diffusé et qu'on modifie ce document en fonction des nouveautés qu'il y a à mettre en œuvre. On a à la fois un document de travail, mais un document de mémoire sur ce qui a été fait précédemment. Donc on peut, d'une réunion à l'autre ou même 10 réunions après, se référer au document antérieur de manière à avoir toujours des éléments. Un autre aspect qui caractérise notre activité, c'est que chacun note pour chaque travail qu'il mène le nombre d'heures qu'il y passe. C'est un travail volontaire. Chacun, bon, un peu d'ailleurs comme ça se fait dans un cabinet d'avocats, par exemple, où chaque avocat va noter le nombre d'heures qu'il passe. Hein. C'est pas quelque chose de très révolutionnaire, entre guillemets. Néanmoins, ça permet d'avoir aussi comme ça un état chantier par chantier du nombre d'heures qu'on a passées, de pouvoir apprécier si on a été rentable ou pas sur tel ou tel chantier. Ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément abandonner le chantier s'il n'est pas rentable, mais on saura où on en est et on saura si ça vaut la peine ou pas de continuer. Des fois, on fait des chantiers qui ne sont pas rentables parce que c'est par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. Ce sont des chantiers locaux qui sont peut-être moins bien payés, mais sur lesquels on a envie d'investir un peu d'énergie au sein de la navette.
J'ai envie de revenir sur la vie coopérative. Donc, tu dirais que c'est des questions qui se posent d'une manière récurrente hein, au sein du mouvement coopératif et de ses organisations, c'est l'implication des gens. On sait qu'il y a des coopératives où il y a y compris très peu de salariés qui sont coopérateurs. Bon, je pense que la navette, on n'est pas dans ce cas de figure, mais bon, comment tu décrirais un petit peu ces questions d'engagement, ces questions de... Hein, tu parlais de travailler autrement. Enfin, comment tu vois ça dans le concret au sein de la navette?
Il y a un panel, il y a un éventail en fait de motivation de la part des gens qui participent et qui travaillent. Il y a des gens qui vont avoir une approche plus politique et qui sont venus là parce que ça leur tenait à cœur de mettre en place un projet qui relève d'une réflexion globale sur les process de production au sein d'une société. Il y en a d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils avaient envie de travailler, travailler autrement. Il y a quand même beaucoup une notion de plaisir, c'est-à-dire de travailler sous des contraintes. Il y en a toujours dans un boulot parce que Pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais on peut y travailler avec plus ou moins de plaisir et plus ou moins de stress. Et donc, c'est vrai que ce qui motive aussi assez largement les gens qui viennent travailler dans ce genre de structure, c'est de travailler avec moins de stress, ou du moins un stress qui va être collectivement partagé, ce qui fait qu'il est moins difficile à assumer et à affronter. Je dis qu'il y a du stress parce que à partir du moment où on rentre dans une activité économique dans laquelle on va tirer sa subsistance, on se retrouve confronté en effet à un certain nombre de contraintes avec lesquelles il faut jongler, et c'est vrai que ça génère du stress et ça génère aussi des tensions. Les gérer collectivement, ce qui est le cas dans un projet comme le nôtre, a l'avantage de pouvoir se reposer sur les autres en même temps que les autres se reposent sur soi, c'est-à-dire qu'on est en responsabilité collective, il ne s'agit pas d'une irresponsabilité des uns par rapport aux autres. Et pour en revenir aux motivations, c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont être plus ou moins motivés et plus ou moins actifs, mais la diversité, c'est aussi sur laquelle on s'appuie et qui pour nous est une richesse, c'est aussi savoir accepter qu'il va y avoir des différences de niveau de motivation et d'engagement et d'implication dans un projet, et que si on veut que le projet fonctionne bien, il faut aussi savoir accepter ces différences de motivation.
Très bien, je te remercie. Alors, écoute, si tu es d'accord, je voudrais profiter de ta présence au micro pour parler du réseau Repas. Tu évoquais une histoire ancienne, tu évoquais 20 ans. Alors, comment ça s'est passé cette création? Qu'est-ce qui a motivé? Qui étaient les protagonistes? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Et puis peut-être un petit peu de deuil rétrospectif. Autrement dit, aujourd'hui, le réseau, où il en est? Enfin, quelle est ta vision un petit peu de tout ça?
Pour autant que je puisse le faire, je suis un des vieux, mais pas forcément un des fondateurs dans ce réseau. C'est un réseau donc qui a plus de 20 ans, qui a été monté au départ par des personnes qui participaient. Enfin, les piliers fondateurs sont des gens comme Ambiance Bois, comme Art de Laine, des structures qui, en fait, justement, réagissaient à ce qui existait à l'époque, notamment une structure qui s'appelait le REAS, qui était de la réflexion très théorique autour de ces questions d'autogestion. Et ils ont réagi, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, en disant, nous, on veut parler de ce qu'on vit au quotidien dans nos structures et des problèmes qu'on y rencontre. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se rencontrer. C'est par rapport à ça qu'on va essayer de réfléchir. Alors, ce réseau, il s'est construit de manière assez informelle, virale, on dirait maintenant, ou vernaculaire. Enfin bref, c'est du bouche à oreille. C'est des rencontres entre structures qu'on repère et auxquels on propose de venir partager leur expérience avec les autres et en retirer aussi des éléments de réflexion par rapport à ce que vivent d'autres structures. C'est un réseau qui se réunit régulièrement deux fois par an, qui est ouvert, qui est informel, le réseau lui-même. Hein. Après, on pourra évoquer deux aspects qui sont plus formalisés. Et ces rencontres sont des rencontres qui sont définies à chaque réunion. On définit la structure suivante qui va accueillir la réunion suivante, à elle de fixer un thème de cette réunion. Les thèmes pouvant aller de questions très concrètes sur la transmission au sein de structures, ça peut être aussi les salaires, ça peut être aussi l'environnement, ça peut être aussi ici une réflexion sur le projet politique à mener par rapport à l'activité dans laquelle on fonctionne. Tous les sujets peuvent être abordés. Évidemment, depuis 20 ans, on a vu beaucoup de choses et on les a vues même plusieurs fois. Mais l'important aussi de ce genre de rencontre, c'est bien entendu les échanges qu'il y a sur le moment, qui font aussi du bien dans la mesure où elles permettent de conforter un peu nos propres pratiques et de pouvoir déjà sentir que d'autres font des choses un peu équivalentes un peu partout sur le territoire et qu'on n'est pas si isolé que ça dans nos manières de faire. Alors, je veux juste revenir sur deux aspects qui sont plus formalisés au sein de ce réseau. Il y a d'une part une maison d'édition qui s'est montée, qui est donc sous forme associative et qui regroupe un certain nombre de personnes qui sont motivées autour de l'édition de bouquins reprenant un certain nombre d'expériences et d'historiques, de présentations historiques.
Les éditions Repas.
Les éditions Repas, oui. Qui donc reprend des histoires de vie, entre guillemets, de différentes structures qui participent à ce groupement. Et d'autre part, il y a le compagnonnage, qui est une expérience qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années aussi, et qui est une manière de proposer à des personnes plutôt jeunes en général, de toute façon, de venir se confronter à ce que c'est que des pratiques d'action collective en faisant un tour de piste au sein des structures du réseau Repas et en menant parallèlement à ça des projets collectifs, un projet collectif. Donc c'est un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine, ça varie entre 15 et 30 suivant les années, de personnes plutôt jeunes qui viennent là sous forme d'un espèce de stage pendant 6 mois et vont visiter des structures et mener eux-mêmes des projets collectifs et en apprenant à travailler ensemble sur des projets collectifs, donc à fonctionner collectivement. Ce qui est intéressant dans cette approche aussi, c'est que chaque membre du réseau Repas, enfin chaque structure membre de cette expérience de compagnonnage, délègue un ou une de ses salariés pour participer au groupe de pilotage. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est mené par l'ensemble des structures qui vont accueillir après les jeunes. Ça crée une dynamique intéressante pour la suite et il y a pas mal de personnes qui sont passées par ce compagnonnage qui ont soit intégré des structures qui sont maintenant dans ce réseau plus ou moins formel, soit créé de nouvelles structures qui sont venues dans ce réseau. C'est pas tous les stagiaires, hein, mais un certain nombre d'entre eux.
Pour bien comprendre hein, cette question du compagnonnage qui me semble effectivement à la fois très riche et très, très prometteuse, hein, finalement, hein, par rapport à ce que tu évoquais. Donc, il y a une quinzaine de jeunes, on va partir de cette... il y a une quinzaine de jeunes, donc qui sont, entre guillemets, encadrés, avec des guillemets, hein, sur, par différents salariés des différentes organisations du réseau. Alors, ces 15 jeunes, comment ça se passe? Ils ne vont pas tous en même temps dans... Autrement dit, il y en a un, à un moment donné, qui va être chez Ambiance Bois, un autre qui va être à la navette, un autre qui va être... Comment ça se passe concrètement?
C'est jamais des personnes isolées. C'est en général un groupe de personnes qui vont... alors, de toute façon, il y a des regroupements avec l'ensemble des 15 ou des 20. Donc, un regroupement à l'accueil et à des moments intermédiaires. Et sinon, il va y avoir par petits groupes de 5, 6 ou plus des gens qui vont aller dans les différentes entreprises pour participer à la vie de cette entreprise en menant un projet spécifique au sein de chacune des entreprises qu'ils vont visiter.
Écoute Alain, peut-être pour conclure, une dernière question. As-tu évoqué les rencontres du réseau Repas? Donc là, aujourd'hui, nous sommes... au sein de À Petits Pas, hein, dans les Sept Vallées. Et À Petits Pas a choisi comme thématique, hein, tu l'évoquais, le lien entre le projet politique et puis les contraintes financières, hein, d'une manière générale. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que tu positionnerais ce débat? Qu'est-ce que ça t'amène, toi, personnellement, sans engager qui que ce soit, évidemment?
Alors, c'est vrai que je n'ai participé qu'aux réflexions d'hier, puisque ce matin, j'étais en cuisine. Pour autant, j'ai un certain nombre de choses par rapport à ça auxquelles j'ai réfléchi. C'est vrai que ce qui me semble important, en fait, de pouvoir essayer De réfléchir, c'est à la manière dont notre expérience et la façon dont nous travaillons à l'interne entre nous, puisqu'on a choisi donc cette manière d'égalité et d'appel à l'intelligence de chacun, et donc pour en faire une intelligence collective, de réfléchir à la manière dont on peut l'exporter dans nos relations avec l'extérieur et de voir, de tester de quelle manière ces comportements ou ces habitudes ou ces manières d'être peuvent aussi fonder une action plus politique. Mais ça m'est personnel, hein, ce n'est pas une réflexion du réseau Repas. Avec à la fois des éléments qui peuvent venir d'une approche peut-être non violente, on peut dire d'un certain point de vue, mais aussi d'une approche qui peut être plus militante, d'une réflexion sur ce qu'on appelle la démocratie participative face à la démocratie représentative, et en disant qu'un réseau comme le réseau Repas a peut-être pas mal de choses à apporter sur une forme de démocratie participative assez élaborée et assez sophistiquée, c'est vrai, qui prend du temps, c'est vrai, mais qui est aussi une manière peut-être plus efficace pour résoudre un certain nombre de problèmes sociaux qui se posent et intervenir sur les problèmes de la cité, parce que nous avons des savoir-faire, des pratiques, un respect de l'autre, une manière d'aborder les questions qui peuvent être aussi efficaces dans la résolution d'un ensemble de problèmes sociaux qui se posent.
Je remercie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à tes yeux, encore une fois, les pratiques que le réseau Repas a engrangées depuis 20 ans, qui ne font que se confirmer et s'affirmer, est-ce que ces pratiques, selon toi, donc elles peuvent davantage essaimer? Et donc, est-ce que ça signifie que le réseau pourrait peut-être avoir une ambition peut-être plus de se tourner vers les autres pour convaincre par la pratique? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire à tes yeux?
Je ne poserai pas comme ça, parce que le réseau, son ambition, c'est de continuer à être ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'informel dans lequel les gens viennent confronter leurs pratiques et réfléchir à ce qu'ils peuvent en faire. Mais il ne me semble pas que ça soit dans la vocation du réseau de devenir d'une manière ou d'une autre un mouvement politique. Ça, c'est à chacun, après, en s'appuyant sur ce qu'il en retire, de pouvoir aller plus loin ailleurs dans d'autres structures pour justement intervenir. Mais j'ai l'impression que c'est simplement un lieu de ressourcement, d'enrichissement, mais que ça ne peut pas être, parce que de toute façon, il y a une trop grande diversité sur les approches et c'est vrai que c'est cette diversité aussi qui fait l'intérêt et l'enrichissement qu'on peut en avoir, mais que ça ne peut pas être en soi un mouvement politique. Et donc, il ne peut pas se présenter à l'extérieur autrement que comme un lieu où viennent se confronter un certain nombre d'expériences de tous ordres qui fonctionnent sur les valeurs qu'on a évoquées précédemment.
Cette interview est maintenant terminée. Donc j'aimerais vous rappeler quand même les différentes façons de contacter le réseau Repas. Le plus simple, c'est de se rendre sur deux sites internet. Donc le premier site qui concerne le réseau en lui-même et le compagnonnage, c'est réseaurepas.free.fr. Et enfin le site des éditions Repas qui présente l'ensemble du catalogue, des livres publiés par ces éditions, c'est éditionrepas.free.fr.
Eh bien, cette diffusion de Micro-Rebelles Hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés. Rappelons que vous pouvez écouter et réécouter Micro-Rebelles Hebdo sur notre site microrebelles.fr et également sur Radio PFM 99.9 les mercredis à 22h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Précisons enfin qu'il vous est tout à fait possible de participer à l'aventure Micro-Rebelles et de rejoindre notre équipe composée uniquement de bénévoles. Vous pourrez notamment intervenir au sein de nos émissions, par exemple pour traiter d'un événement ou encore pour présenter votre association, votre collectif militant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en charge un créneau régulier sur une thématique qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous disposerez du matériel nécessaire et nous vous formerons à son utilisation. Le plus simple pour nous contacter est de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse contact@microrebelles.fr. contact@micro-rebelles.fr. Et enfin, avant de rendre l'antenne, Micro-Rebelles souhaite vous solliciter financièrement. Nous sommes une radio indépendante, sans pub, sans subvention. Vos contributions permettront d'améliorer notre équipement matériel et notre présence Internet. Le plus simple est de nous envoyer un chèque à l'ordre de Micro-Rebelles à l'adresse suivante. Micro-Rebelles, Le Lag, L-A-G, 23 avenue Jean Jaurès, 62 800 Liévin. Merci d'avance à toutes et à tous. Et maintenant, un petit rappel, car on vous en a déjà parlé. Nous vous attendons samedi 2 juillet pour le barbecue de Micro-Rebelles. Venez rencontrer notre équipe, échanger sur ses projets et surtout passer un bon moment ensemble. C'est à 13h dans nos locaux 199 rue Émile Zola à Liévin. Le plan et les moyens d'accès sont sur notre site microrebelles.fr. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez venir avec un plat à partager ou des choses à mettre sur le barbecue ou bien encore des boissons. Ceci dit, vous pouvez aussi arriver les mains vides, vous n'en serez pas moins le ou la bienvenue. À très bientôt donc.